Bonjour à tous et bienvenue sur Binge Audio pour un nouvel épisode de notre série intitulée Ni guerre ni paix.
Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir.
Si l'on a pu d'abord penser que ce discours utilisait des mots forts pour éveiller les consciences face au danger imminent que représentait le coronavirus en mars dernier, la rhétorique guerrière du président de la République a ensuite perduré et s'est traduite de manière concrète dans l'ordre social et politique. Et oui, depuis janvier dernier, Emmanuel Macron a utilisé environ 40 fois le Conseil de défense. Chaque semaine ou presque, le président de la République définit sa stratégie sanitaire de lutte contre le coronavirus dans le plus grand secret du Conseil de défense. Et par ailleurs, il n'est pas rare de voir depuis mars dernier des policiers déployés en nombre armés d'un fusil d'assaut. Pour escorter un convoi, pour repérer des colis piégés, et non, pour contrôler des attestations de déplacement dérogatoires. Et pendant ce temps-là, l'intervention d'Olivier Véran le 4 novembre dernier n'a échappé à personne. Celui-ci a invité les députés de l'opposition à sortir de l'hémicycle car il préférait débattre plutôt que de voir la réalité de nos hôpitaux. Alors chacun se fera son avis politique sur de telles pratiques, chacun se demandera si le danger et l'urgence de la situation justifieraient de passer outre le Parlement. Nous, notre objectif sera ici de démontrer comment la façon dont le président et le gouvernement luttent contre l'épidémie témoigne que la guerre et ses pratiques se sont progressivement immiscées dans la vie de nos sociétés jusqu'à en devenir un facteur ordinaire. Musique. La guerre est un conflit armé entre plusieurs groupes. Autrefois, elle impliquait le plus souvent deux États. Ainsi, chaque État voyait l'autre comme la principale menace qui venait mettre en danger sa propre pérennité. Il mobilisait alors tous ses monopoles et sa population pour contrer la menace et survivre. En France, par exemple, le chef de l'État peut déclarer l'état de siège s'il estime qu'il y a un péril imminent du fait d'une insurrection armée ou d'une guerre. Actuellement, si l'on considère que la lutte contre l'épidémie est une guerre à proprement parler, alors l'armée pourrait avoir les pouvoirs de lutter contre l'ennemi. L'ennemi étant ici le citoyen qui fait circuler le virus. C'est un peu ce qui s'est passé en Chine en décembre 2019. Or, nous voyons mal comment la lutte contre l'épidémie peut être une guerre, car le virus n'a pas pour ambition quelconque objectif revendicatif et politique. Et les citoyens ne le font pas circuler pour mettre en péril l'État. Le problème est que depuis quelques années, un droit guerrier se construit en France. Ce que l'on peut appeler un droit pénal de l'ennemi. En deux mots, on construit des règles dérogatoires au droit commun qui peuvent être appliquées qu'à certains individus. Les terroristes par exemple, ceux que l'on considère comme les ennemis de la République. Sauf que l'on a bien vu que l'état d'urgence s'est banalisé depuis 2015 jusqu'à entrer dans le droit commun le 30 octobre 2017 à l'occasion de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. En période de paix donc, le législateur a pérennisé des moyens juridiques guerriers. Que se passe-t-il quand le droit d'exception devient commun? Quelles sont ou quelles pourraient être les conséquences d'une telle stratégie juridique? Prenons deux exemples. Premier exemple, aux États-Unis. La police est armée depuis longtemps avec un équipement militaire. Les policiers locaux sont par exemple équipés de véhicules blindés résistants aux explosifs. Les agents civils sont armés comme des forces spéciales. Et dans le même temps, les armées ont toujours eu un rôle à jouer dans le maintien de l'ordre. La frontière devient poreuse entre les deux ordres et les besoins du monde militaire et civil ont eu tendance à se confondre dans le pays. Le problème étant qu'avec un tel arsenal, un simple contrôle de la circulation peut très vite se transformer en combat de rue. Deuxième exemple, en France, en 2007, un dispositif nommé Voisins Vigilants a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Le principe est de mobiliser les citoyens pour qu'ils surveillent qu'il ne se passe rien chez leurs voisins en leur absence. L'objectif étant de lutter contre les cambriolages notamment. Après une militarisation de la police, assiste-t-on progressivement à une policiarisation des citoyens? Après avoir téléchargé tous anti-Covid, pourra-t-on bientôt télécharger « Dénonce ton voisin à plus d'un kilomètre » Eh oui, restons bel et bien vigilants. Alors certes, on ne peut pas dire que les moyens utilisés pour lutter contre l'épidémie sont des moyens de guerre, mais on ne peut pas non plus dire que l'État use de moyens pacifiques dans cette lutte. N'oublions pas la situation dans nos hôpitaux, oui, mais ce qui reste le plus important en temps de crise pour nous autres citoyens est de veiller à la préservation de nos droits. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.